Je vais vous parler ce matin d'un livre qu'on aborde peu. C'est le livre d'Habacuc. Alors, Habacuc. Habacuc, c'est après Nahum. Après Michée. Michée, Nahum, Habacuc. C'est avant Sophonie et Agée. Donc, on va pas. J'ai pas de projecteur ni rien du tout. On va faire ça à l'ancienne, comme on faisait dans le temps, sans projecteur. Donc, Habacuc qui se situe environ, ce livre, environ en moins 600 avant Jésus-Christ, moins 606. On ne va pas regarder les détails, à peu près en moins 600. Dans l'histoire d'Israël, c'est un moment critique de l'histoire d'Israël. Parce qu'avant, vous aviez eu la domination assyrienne qui avait fait que Israël, les nations du Nord, vous savez que Israël a été très vite séparé en deux, les nations du Nord, qu'on appelle Israël, et les nations du Sud, le royaume du Sud, Juda et Benjamin. Israël avait été battu par les Assyriens et emmené en déportation. Ensuite, ça a été la première domination énorme dans cette région. La deuxième domination, ça a été une domination babylonienne. Babylone a vaincu Ninive en moins 612. Ninive, pour vous fixer les idées, c'est Mossoul. Aujourd'hui, Ninive, c'est Mossoul. Donc, ensuite, vous avez une domination babylonienne qui va être marquée par le fait, pour nous, en tant que chrétiens, qui aimons la parole de Dieu et l'histoire d'Israël, par la chute de Jérusalem. Jérusalem va tomber sous les coups de Nebuchadnezzar en moins 586. D'accord ? Et là, vous avez la destruction du temple et des murailles. Jérusalem est détruite. Et la troisième grande domination de cette époque-là et dans cette région-là, ça a été une domination perse. Les Perses eux-mêmes ont battu les Babyloniens. Et ils ont emmené, en fait, un grand nombre de gens en déportation encore. Mais un roi de Perse, et Cyrus, a fait un édit comme quoi les Juifs pouvaient retourner dans leur terre. C'est Cyrus qui a fait ça en moins 538, et c'était promulgué par Artaxerxès plus tard. Donc, vous voyez, c'est ça l'époque. C'est l'époque assyrien, babylonien, perse. Et là, on se situe avant la description de Babylone. Et quel est le thème du livre d'Habacuc? Au fond, Habacuc se trouve devant un peuple avant la destruction de Babylone. Il est dans son peuple, il est à l'intérieur de son peuple, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une iniquité énorme. Et il prie Dieu, prenez au chapitre 1, verset 2, et il dit: « Jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié, tu n'écoutes pas. » C'est frappant. « J'ai crié, tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. » À la violence, il veut dire par là. J'ai crié en disant: regarde, Seigneur, toute cette violence qui existe dans mon peuple. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? Et pourquoi contemples-tu l'injustice? Vous pouvez aussi penser à notre temps d'aujourd'hui. D'accord? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Oppression et violence. Il y a des querelles, il y a de la discorde. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie? C'est terrible ce verset. La loi n'a point de vie. La loi n'existe plus. On ne la suit plus. On ne l'écoute plus. La justice n'a point de force. Et là, ça culmine. Car le méchant triomphe du juste. le méchant triomphe du juste. Moi, je trouve que ça correspond un peu à notre situation, et même beaucoup à notre situation occidentale, dans le monde actuel, et particulièrement à l'Occident. Le méchant, actuellement, nous sommes dans une situation, ou dans bien des situations, vous pouvez les regarder, vous regardez ce qui se passe à la télévision, vous regardez ce qui a été décidé, vous dites, ben, c'est clair que le méchant triomphe du juste. On en est là, on en est plus ou moins là. Et Habacuc prie à Dieu. Et lit le thème de ce livre, c'est ça. C'est les premières questions d'Habacuc. Habacuc se pose ces questions devant l'état moral de son peuple. Et il va être amené à se... Alors, dans le thème général du livre, à se poser la question concernant le moyen que Dieu a choisi pour le juger. D'accord ? Parce que voilà un peuple qui est dans une situation d'iniquité très importante. Dieu va juger ce peuple et Habacuc va dire, mais pourquoi cela ? D'accord ? Le verset central du livre, on reviendra là-dessus, c'est le juste vivra par sa foi. C'est-à-dire par sa confiance en Dieu. Quoi qu'il arrive, par sa confiance en Dieu. Quoi qu'il arrive. Moi, j'apprends ça à mes petits-enfants. Je leur dis, qu'est-ce que c'est que la foi ? J'ai 4 petits-fils. Qu'est-ce que c'est que la foi ? Et maintenant, ils savent. La foi, c'est la confiance, ils disent. La foi, c'est la confiance. C'est la confiance. En fait, la foi, c'est la confiance et l'obéissance. Mais pour l'instant, j'en suis à leur apprendre. La foi, c'est la confiance. Confiance en ce Dieu qui est notre Dieu. Et c'est ça que Habacuc va apprendre, que nous allons apprendre avec lui, avec ce texte extraordinaire. Ce texte fait 3 chapitres. Et en réalité, il répond par rapport à la question de la souffrance et les questions que nous pose notre monde et la façon que Dieu a de faire dans ce monde. Ce texte d'Habacuc pratiquement répond à l'essentiel des questions que vous pouvez vous poser. Et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer. Il y a 5 parties, très rapidement. La première, c'est les questions d'Habacuc que je viens de vous lire. La deuxième, c'est la réponse de Dieu, dont vous allez voir qu'elle est quand même chaude. La troisième, c'est la nouvelle suite des interrogations d'Habacuc. Dieu va lui répondre à nouveau. Et puis, c'est la prière d'Habacuc. Donc, certains passages, je vais faire plus rapidement, n'est-ce pas ? Parce que c'est quand même un... Même si c'est un livre court, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais vous voyez, là, nous venons de passer à la première question. J'ai crié, tu n'écoutes pas. Le méchant triomphe du juste. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur ? Et vous savez, cette question-là, j'ai prié, tu n'écoutes pas. C'est des fois des prières que nous pouvons adresser à Dieu même pour nous-mêmes. Seigneur, je te prie, je te demande une chose à laquelle je tiens beaucoup et qui est peut-être une chose très spirituelle, comme là, dans le cas d'Habacuc, c'était très spirituel. Il dit, voilà, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Tu ne peux pas laisser ce peuple aller comme ça. C'est le peuple de Dieu. Vous voyez, la préoccupation d'Habacuc, c'est le peuple de Dieu. Et tu le laisses aller. C'est ton peuple. Et tu le laisses aller. Et Dieu va répondre. Alors, la réponse de Dieu, je vais vous la lire. Ça commence au chapitre, au verset 5, ça va jusqu'au verset 11. Je vais vous la lire parce que je ne vous lirai pas tout le livre, bien sûr. Il y a des passages, je vais vous dire, voilà ce que l'apôtre, ce qui est écrit. Mais là, je vous le lis pour prendre conscience. Au verset 5, c'est Dieu qui parle maintenant. Jetez les yeux parmi les nations, soyez saisis d'étonnement et d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. C'est Dieu qui parle. Voici, je vais susciter les Chaldéens, Babylone, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues du pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable, de lui seul viennent son droit et sa grandeur, de lui seul viennent son droit et sa grandeur, de ce peuple. Voyez, mesurez ce que Dieu est en train de dire de ce peuple. Des chevaux sont plus rapides que ces chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil, ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. C'est une description incroyable, incroyablement poétique, mais incroyablement parlante aussi. Mais vous voyez, tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant. Il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre, il les prend. Alors son ardeur redouble. Il poursuit sa marche. Il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son droit. Son Dieu. Sa force à lui, voilà son Dieu. Vous imaginez ce peuple. Alors vous pouvez vous dire, bon, bien sûr, on peut imaginer ce peuple furibond et terrible, n'est-ce pas, dont il est question ici. Donc en fait, Dieu répond à Habacuc pour juger le péché de mon peuple. Je vais faire comme ce que j'ai fait avec Israël, où je leur ai envoyé les Assyriens. Je vais envoyer sur Juda, je vais envoyer les Chaldéens. Mais vous voyez que Dieu, en même temps, dit que fait l'annonce d'une situation infiniment pire que celle que le prophète connaît. Car Dieu va faire surabonder l'iniquité. L'iniquité est énorme dans le peuple de Dieu, à Jérusalem, et là, il va faire venir un peuple qui est encore plus inique. Encore plus méchant. Un Dieu dans lequel, qui met sa force, qui regarde sa force comme son Dieu. Comme vous avez vu. De lui seul viennent son droit. Normalement, c'est de Dieu que vient le droit. De lui seul vient son droit. C'est un peuple terrible. Il triomphera de Jérusalem, du méchant qui triomphe du juste. Et vous avez ceci, vous avez ici, il disait que le méchant triomphe du juste, et là, ça va être encore plus fort. Le méchant va encore plus triompher du juste. Ce que dit ce passage, c'est que aussi, il n'y a pas de solution pour Israël, pour Juda, pour Jérusalem. Il n'y aura pas de solution bricolée, du genre je vais essayer de m'appuyer sur les Égyptiens ou sur les Assyriens pour me défendre, pour faire que je passe à côté de ce drame, etc. Il n'y a pas de solution bricolée. En réalité, le seul secours, la seule consolation sera en Dieu. On verra ça à la fin. Il n'y a pas de solution bricolée. Dieu n'est pas en train de dire « Allez voir un tel et un tel pour vous aider. » Ça ne marchera pas. Il n'y a pas d'aide. C'est fini. Le seul aide que vous pouviez avoir, c'était Dieu. Votre seule consolation est en Dieu. Il n'y aura pas d'aide. Car la délivrance vient de l'Éternel seul. On verra ça à la fin. Alors, sur ça, à partir de là, si vous voulez, vous avez au fond la suite des interrogations d'Habacuc, parce que là, on est encore en train de faire encore plus fort, si vous voulez. Lui, il attendait qu'il y ait quelque chose qui se passe de la part de Dieu pour que ce peuple qui marchait dans l'iniquité se relève. Et Dieu lui donne une réponse qui correspond en rien à ce qu'il attendait, puisqu'il attendait que le peuple se relève, et en fait Dieu lui présente une situation infiniment pire que celle qu'il connaît. Ce truc me gêne. Infiniment pire que celle qu'il connaît. Donc, quelle est, devant une telle situation, quelle est l'attitude d'Habacuc? Vous la voyez au verset 12 de ce chapitre 1. Il dit « N'es-tu pas de toute éternité éternel, mon Dieu, mon Saint ?» En réalité, ce que fait Habacuc ici, c'est qu'il prend du champ. Il se retire un peu et au fond, il regarde la situation. Et qu'est-ce que ça signifie pour lui prendre du champ et regarder la situation ? Ce que ça signifie, c'est de se tourner vers Dieu et de regarder à ce qu'il sait de Dieu. Voilà, Dieu me dit ça. Maintenant, qu'est-ce que je sais de Dieu ? Voyez, quand vous êtes dans une situation de drame comme ça, il faut toujours revenir à Dieu lui-même, à Jésus-Christ, pour nous-mêmes qui sommes chrétiens. Il faut revenir à Christ. Qu'est-ce que je sais de Christ ? Lui, il dit « qu'est-ce que je sais de Dieu ?» Moi, je vais vous dire aussi « qu'est-ce que je sais de Christ en plus ?» Qu'est-ce que je sais de Dieu ? Il dit « voilà, tu es éternel. Et tu es saint. » Donc déjà, avant même de commencer à discuter avec Dieu, il est saint. Il est éternel, c'est Yahvé. Il est éternel dans son existence, c'est-à-dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Il est éternel dans son essence, je suis Yahvé. Il est saint. Voilà ce que commence à dire Habacuc. Et nous disons, il est amour. Et il est amour. Ce qui est très important par rapport à Dieu, quand on parle de l'amour par rapport à Dieu, on dit Dieu nous aime. Il y a de l'amour en Dieu. C'est beaucoup plus que ça. L'apôtre Jean nous dit que Dieu est amour. Sa nature profonde est amour. Et quand nous réfléchissons sur Dieu, sur ce qui nous arrive, nous devons toujours, quand on se prend un peu de champ, dire « oui, mais Dieu est amour ». Et vous voyez ce qu'Habacuc a fait ? Il a commencé par prendre du champ et se dire « bon, j'en prends plein le nez là. Qu'est-ce que je vais penser ? Il faut que je repense à qu'est-ce que je sais de mon Dieu ?» Très important. Qu'est-ce que je sais de mon Dieu ? Avant de commencer à discuter avec Dieu, qu'est-ce que je sais de celui avec qui je vais discuter ? Nous savons qu'il est saint, qu'il est éternel, qu'il est amour, qu'il est juste, qu'il est Yahvé, je suis. D'accord ? Nous savons tout ça. Et avant même la moindre conversation engagée avec Dieu, on commence par se dire avec qui est-ce que j'ose parler ? Dieu est amour. Il est saint. Alors, regardez ce qu'il en déduit. Déjà, il en déduit une chose. Voilà. Le peuple chaldéen va venir. Ça va être une catastrophe absolue. Qu'est-ce qu'il dit ? Nous ne mourrons pas. Pourquoi il dit ça ? Parce que Dieu est éternel. Il est saint. Il est fidèle. Il a promis à Abraham que son alliance ne s'éteindrait jamais. Et sachant ça, il peut dire, nous ne mourrons pas. Ça va être la cata. Même strophe. Ça va être la catastrophe. Mais nous ne mourrons pas. Vous voyez, il en prend une conséquence. Nous ne mourrons pas. Parce que je connais ce Dieu qui est éternel et saint, qui a fait ses promesses, et il ne reviendra pas sur sa promesse. Vous voyez quel est le mécanisme de la pensée. C'est comme ça, mes chers amis, que je nous incite à penser. D'accord ? Et nous, quand on ajoute « il est amour », nous savons qu'il est amour, et donc qu'en aucun moment, il ne nous lâchera. Nous avons tous « je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et ça, nous savons que c'est vrai. C'est promesse, ça. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous savons que c'est vrai. Donc, vous voyez, maintenant, Ensuite, il va... Donc, je ne vais pas vous lire le détail, parce que là, je ne finirai plus, hein, d'accord. Ensuite, il va s'interroger. Il va dire, comment est-ce qu'il est possible que le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Le méchant qui est méchant de chez méchant, comment est-ce qu'il peut dévorer le plus juste que lui? Ou disons, le moins méchant. Et donc, il s'interroge sur cette question, qui trouve une perplexité, cette perplexité du prophète se comprendre. Pourquoi est-ce que c'est quelqu'un qui est encore plus méchant que tu vas choisir? Donc, il n'y a pas de réponse claire à cette question. Je vais quand même vous donner un élément. Il n'y a pas de réponse claire à cette question, mais... d'une part, il faut bien se dire une chose, c'est que Dieu ne peut être tenté par le mal. Dieu ne peut jamais lui-même faire le mal. Pensez une chose, qu'à chaque fois que Dieu a exercé des jugements, pensez les Assyriens. Ce n'était pas Dieu, mais c'était un peuple méchant aussi. Il était la verge de la colère de Dieu. C'est-à-dire que la colère de Dieu s'exprimait par les Assyriens. Mais Dieu a jugé les Assyriens pour la façon dont ils ont fait. Babylone, c'est aussi un verge de la colère de Dieu. D'accord ? Babylone sera jugée, je vous le dirai. Mais Dieu lui-même ne peut pas lui-même. Il ne peut pas lui-même faire le mal. Il ne peut pas lui-même. Il est obligé de susciter. Il suscite un peuple pour exercer ses jugements. L'Assyrien, c'est écrit en Ésaïe 40, verset 10, verset 5. Assyrie, verge de ma colère. Ma colère va s'exprimer par... Mais ma colère regardez pour Christ. La colère de Dieu s'est exprimée par le peuple d'Israël et avec la main des Romains. C'est pas Dieu qui a exercé, qui a mis Jésus sur une croix. Ce sont les hommes. Et Dieu a permis que cela se fasse. Mais ce n'est pas lui qui l'a fait. Dieu ne fait jamais le mal. Mais quand il veut exercer son jugement, là c'est ce que je vous propose, hein, quand même. Il utilise des peuples, un peuple, ou des gens qu'il incite à faire, qu'il suscite, ou qu'il laisse faire, ou peut-être qu'il laisse la méchanceté s'exprimer en se retirant, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire comment il fait. Mais il fait quelque chose, mais qui n'est pas que lui ne touche jamais le mal. Mais ensuite, bien entendu, il est... Donc voilà... Pensez, regardez dans le destin d'Israël, vous avez toujours cette situation-là. Pensez à Christ aussi. Je vous dirais que dans l'histoire, tout ça nous fait réfléchir sur notre histoire de France. Sur notre histoire de France aussi. Dieu certainement a voulu à plusieurs reprises parler à ce peuple ici. Et à plusieurs reprises, il a suscité un peuple. Il a aussi suscité un peuple pour s'adresser à Israël il y a 60 ans. Les nazis. Quand vous lisez la description des Chaldéens, et si vous pensez aux nazis, leur force, c'est son Dieu. C'est un peu vrai. C'est ça aussi. De lui seul vient son droit. Ça aussi. Pensez, le livre d'Habacuc est aussi un livre d'histoire dans lequel on peut réfléchir à l'histoire du monde, à notre histoire, à l'histoire d'Israël, à l'histoire en général. D'accord ? Donc maintenant, je vais passer, excusez-moi, mais je vais un petit peu sauter peut-être, et je voudrais vous dire que Dieu en arrive finalement au chapitre 2 à dire, au verset 4, en lui répondant, à Habacuc, il lui dit cette phrase extraordinaire, le juste vivra par sa foi. après avoir dit « Son âme, en parlant des Babyloniens, s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Par sa confiance. Par la confiance qu'il a en Dieu. C'est la réponse de Dieu au verset 2 du chapitre 1. « Jusqu'à quand, Éternel, j'ai crié, tu n'écoutes pas, j'ai crié vers toi la violence ?» Et la réponse de Dieu, c'est « Le juste vivra par sa foi. » Par la foi qu'il a en Dieu. Mes amis, c'est tout ce joue-là dans notre vie chrétienne. Tout ce joue-là. La foi qu'on a en Dieu. Est-ce qu'on a une foi vacillante ou bien simplement anecdotique? Des fois, on dit... Moi, j'ai connu des gens, beaucoup de gens, en fait, qui avaient la foi dans leur salut en Christ. D'ailleurs, qui croyaient à Jean 3,16, si vous voulez que je vous dise. Enfin, en disant, bon, je crois que Jésus m'a sauvé en mourant sur la croix. D'accord? Mais maintenant, qui, dès qu'on commençait à vivre, ne savaient plus exercer leur foi? C'est-à-dire que la foi, ils la voyaient comme moyen de notre salut, la rédemption, justification. Mais comme moyen pour Dieu, pour nous soutenir dans notre vie chrétienne, dans notre vie de sanctification, ils ne voient pas. Ce sont des gens qui se confient immédiatement dans les choses du monde pour régler leurs propres problèmes. Ils croient au salut, à la justification, mais à la vie par la foi, à la vie de tous les jours, à la sanctification qui vient à travers ça. C'est pas qu'ils n'y croient pas, mais c'est qu'ils ne la vivent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je connais des gens comme ça. Même j'ai connu des pasteurs comme ça. Ça paraît drôle, c'est vrai. On doit toujours s'interroger. Est-ce que cette foi, on l'a, quoi? C'est la constellation de l'Éternel qui se construit là et qui va devenir espérance. On va le voir tout à l'heure. La consolation va devenir espérance. C'est-à-dire que le Seigneur veut nous consoler et en même temps nous donner d'espérer. Alors ensuite, Dieu va répondre à Habacuc parce que Habacuc lui dit, mais pourquoi ce peuple? Et alors là, il y a tout le chapitre 2 qu'on ne va pas lire, mais qui est un chapitre dans lequel Dieu dit ce que seront ses jugements sur le peuple de Babylone. Il dit, je vais envoyer ces Babyloniens, ils vont agir de la façon la pire qui soit, ils seront jugés eux-mêmes. Et je vous dirais qu'il le décrit en 5 points, si vous regardez, hein. On vous passera peut-être les notes, je ne sais pas si on va passer les notes, mais il dit en 5 points, ces jugements se rapportent à l'orgueil, à la violence, à la cupidité de Babylone, aussi à son immoralité et à son goût pour les choses du monde des ténèbres. Et vous retrouvez des références de ça dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Je ne peux pas vous faire le détail maintenant parce que ça m'emmènerait trop loin, mais disons que ces jugements sont à rapprocher des jugements sur l'Assyrie. Quand l'Assyrie a détruit Israël, ensuite Dieu a parlé de l'Assyrie en disant « verge de ma colère », mais c'est très intéressant de lire ce qui est dit, parce qu'à partir du verset 5, « Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère !» La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. L'instrument de ma fureur. Vous voyez ce que je vous racontais tout à l'heure, ce que je vous disais. Dieu a besoin d'un instrument. Ça ne peut pas être lui-même. Réfléchissez à ça, c'est très profond. C'est pas profond ce que je vous dis. Le concept que je suis en train de soulever est très profond. Ça ne peut pas être Dieu lui-même. Je l'ai lâché, écoutez ça. Alors là, c'est l'Assyrien, 2 siècles avant. contre une nation impie, c'était Israël, le royaume du Nord. Je les fais marcher contre le peuple de mon courroux, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Mais il n'en juge pas ainsi, et ce n'est pas là la pensée de son cœur. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. Car il dit, mes princes ne sont-ils pas autant de rois? N'en a-t-il pas été de Calgamish, etc., etc. Donc attendez que je lise 12, 16. Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de quoi? De son cœur orgueilleux. Vous retrouvez le même concept de l'orgueil. Vous savez, l'orgueil, très souvent on dit, bon, ben, l'orgueil, on est tous orgueilleux. Bon, l'orgueil, c'est un péché comme un autre, etc. C'est un péché comme un autre dans un sens. Mais c'est quand même le premier péché qui a été trouvé chez Satan. Bon, ben. Le cœur orgueilleux, ce cœur qui veut monter au-dessus de Dieu, c'est le premier péché que vous trouvez chez Satan, l'orgueil. Pour l'arrogance de ses regards hautains, car il dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi. Voyez, vous retrouvez le même concept, la même idée que pour Babylone. Ma force, c'est mon Dieu. Là, c'est par la force de ma main que j'ai agi. C'est par ma sagesse, car je suis intelligent. J'ai reculé l'inimitié des peuples, j'ai pillé leurs trésors, et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur les trônes. J'ai mis la main sur les richesses. C'est Assyrie qui parle. J'ai ramassé toute la terre, nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un cri. C'est la Syrie qui parle. Vous voyez, vous retrouvez le même concept, la même chose que Babylone. Même chose. L'orgueil, l'arrogance, la méchanceté, l'immoralité. Et le jeu avec les princes et les choses des ténèbres. Alors on se termine par la prière d'Habacuc au chapitre 3. Bon, je suis un peu long, mais on continue quand même, non? On continue? On pourrait s'arrêter là. Donc la prière d'Habacuc. Alors, dans cette prière, je ne peux pas vous la lire non plus parce que là... Enfin, je vais lire les deux premiers versets et les versets de la fin. Je ne peux pas ne pas lire les trois derniers versets. Donc 16, 17, 18, 19, je vais les lire. Et je vais lire les débuts. Ensuite, je vais vous dire ce qui se raconte. Voilà la prière. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Donc, le Seigneur a annoncé quoi? Il a dit, voilà, ce peuple qui est mon peuple est dans la méchanceté, l'iniquité. Je vais le juger par un peuple pratiquement encore plus inique que lui. Mais je vais moi-même juger ce peuple. Voilà comment les choses se passent. C'était comme ça que c'était passé pour Israël, l'Assyrien, l'Assyrien. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Donc, le premier élément de la prière d'Habacuc, c'est au fond, accomplis ton œuvre, ou bien que ton règne vienne. Nous, on le dirait comme ça en chrétien. Seigneur, j'ai compris. Accomplis ton œuvre. Quelle qu'elle soit, au fond. Pour moi, elle est difficile à comprendre, cette œuvre, mais quelle qu'elle soit. Vous voyez ce que je veux dire? Accomplis ton œuvre. Il y a une petite chose ici. Il y a une évocation de mémoire. Dont l'idée est de soutenir la foi devant les œuvres de Dieu. Regardez ce qu'il dit ici. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Et quand il dit ça, il n'a pas encore dit ce qui va être la suite. Dans la suite, il va expliquer, il va redire une partie de l'histoire d'Israël, C'est un peu compliqué à expliquer toutes les références de l'histoire d'Israël. C'est pourquoi je ne vais pas le faire. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il dit après, c'est comme s'il l'expliquait ici. Il explique l'histoire d'Israël et à chaque fois, il montre que Dieu a été plein de compassion pour Israël. Donc vous voyez, en même temps qu'il dit « Seigneur, fais ça », en même temps, il évoque dans sa mémoire tout ce que Dieu a déjà fait pour Israël et la façon dont il l'a protégé et combien il a déjà eu de la compassion pour Israël. Donc là, je vous fais la résumé de ça parce que je ne peux pas le faire en détail. Toutes les références du Deutéronome et d'autres textes. Si vous avez les textes, je vais demander à ce qu'on vous distribue les textes, mais ça va être compliqué parce que ils vont distribuer à des gens qui n'ont pas lu le message. Ça va être compliqué. Je ne sais pas comment on va pouvoir faire ça. Mais en tout cas, ce qu'il dit après, c'est qu'il raconte l'histoire d'Israël en disant « Seigneur, tu vois là, ça, tu as fait ça, tu as fait ça. » Et implicitement, on voit les compassions de Dieu. Et il arrive au verset 13, « Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint, ton Messie. » Donc en d'autres termes, voilà le thème. Le thème de cette suite, c'est « Seigneur, j'accepte mes et compassions. » Et compassion. D'accord ? Et compassion pour nous. Et après avoir donc évoqué tout ce qui est l'aspect mémoriel, je reviendrai là-dessus tout à l'heure en finale, il dit ces versets extraordinaires. Mettez-vous verset 16, je vais les lire avec vous. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Vous vous rendez compte la détresse qui est là. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur des lieux élevés. Vous voyez, ça, ces quatre versets sont des versets absolument énormes. Et il vous raconte le détail de ce que je vous ai dit il y a plusieurs mois, quand je vous avais parlé de Romains 5, que la patience engendre la victoire dans l'épreuve et la victoire l'espérance. Vous l'avez là. Regardez le verset 16. Mes os se consument, mais en silence, je dois attendre le jour de la détresse. La patience. Ce que Dieu veut former en nous, c'est la patience. Ce jour de la détresse viendra une vingtaine d'années plus tard. D'accord. Ensuite, vous avez le verset 17 et 18. Ça, c'est la victoire dans l'épreuve. Le verset 17 et 18, il vous dit, il n'y aura plus rien. Le figuier ne fleurira pas, etc. Le fruit de l'olivier manquera. Il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Il n'y aura plus rien. Mais je veux me réjouir en l'Éternel. C'est-à-dire, je veux me rappeler de qui est mon Dieu. Qui est le Dieu de mon salut. Celui qui m'a sauvé. Et celui qui va continuer de me sauver. Voyez-vous ? Ça, c'est la victoire dans l'épreuve. La victoire dans l'épreuve, elle est dans l'acceptation des conséquences des décisions de Jésus, du Seigneur, et la joie que ça crée par la foi. J'accepte, là, en plein milieu de l'épreuve, qu'elle vient de Dieu et que Dieu va me soutenir. Car il est le Dieu de mon salut. Donc je me rappelle qui est Dieu. Je me rappelle à nouveau. C'est très important toujours de se rappeler qui est Dieu. Car comme je vous ai dit, il faut se rappeler sans cesse que Dieu est amour pour nous. Et puis cette victoire, elle engendre l'espérance. Verset 19. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher dans des lieux élevés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Les biches, ce sont des animaux, les biches, qui sont caractérisés par l'agilité. Et alors, elles sont capables de... Et ce que dit le prophète, c'est qu'ici, tu vas me permettre, au milieu de tous ces tourments, de passer comme ça. L'agilité des biches. Les biches sont capables de courir très vite, de sauter très haut, ça je ne vais pas vous le faire, et très loin. Et elles ont le pied très délicat. Et Dieu leur dit ça. Et Dieu, Habacuc dit, tu vas me rendre comme les biches. Je vais passer au milieu. Je vais sauter. Je vais éviter. Ça me fait penser, vous savez, à ce psaume 91. Et là, vous voyez, il dit, je vais revenir là sur le psaume 91, il dit... Il me fait marcher sur des lieux élevés. En fait, c'est l'espérance. Vous savez les trois choses que j'avais dit ? La patience, la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Là, l'espérance, elle est là. Vous l'avez là. Tu vas me soutenir. Tu vas me faire marcher comme une biche. Tu vas rendre mes pieds semblables. Tu vas rendre mes pieds semblables à ceux des biches. Je vais passer. Vous savez ce verset 91 ? 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche. Passe au milieu. L'espérance. Donc, quelle est la clé de la vie dans l'épreuve ? Elle est tout entière contenue dans le livre d'Habacuc. C'est la foi. Le juste vivra par sa foi. Et cette foi, elle est soutenue de deux façons. D'une part, parce que nous savons de Dieu, de ses attributs. C'est « je sais qu'il est l'Éternel », 1.12, « je sais qu'il est saint », « je sais qu'il est amour », « je sais qu'il est juste », tout ce que je peux dire de ça. Ma foi, elle est soutenue parce que je sais de Dieu et, par la partie que je n'ai pas lue, parce que j'ai expérimenté de lui. Quand je vous ai dit qu'il est revenu et qu'il a parlé des compassions de Dieu dans l'histoire d'Israël, c'est qu'il a déjà expérimenté les compassions de Dieu dans l'histoire d'Israël. Et c'est la partie que je ne vous ai pas lue, mais qui se termine par « Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oin ». Donc vous voyez, la foi, c'est ce qui nous permet de vivre à travers les problèmes. Cette foi, elle est soutenue, c'est la confiance. Elle est soutenue d'une part par ce que je sais de lui, du point de vue de sa personne, et d'autre part, parce que je sais de lui, parce que j'ai expérimenté de lui. Les deux, c'est deux. Il y a deux jambes, il y a deux pieds. Et des fois, des gens qui disent, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est ce que nous connaissons de Dieu. C'est vrai. Mais Dieu nous a donné cette grâce aussi, de connaître des choses qu'il a faites, et de voir dans notre vie ce qu'il a fait. Et c'est très important qu'on joue avec ça, qu'on y repense, parce que c'est aussi un des supports, un des soutiens de la foi. Je termine en vous disant, voici ce que dit le Seigneur Jésus, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen.